Single Jungle, le podcast des célibataires. Ma vraie réussite, c'est quand il y a un vrai changement de posture et que les personnes sont capables de me dire « Oh là là, je regarde pas pareil les personnes que j'ai en face de moi » ou alors qu'elles vivent un début de relation qui est sympathique et très différent de ce qu'elles avaient vécu et qu'elles me disent « En fait, là, je me rends compte que si ça s'arrêtait demain, je serais triste, mais en fait, je perds pas le sens de ma valeur, je reste ancrée et ce serait pas grave, ça aurait été une belle expérience. » Quand on en arrive là, je dis « Ça, c'est bien, on a bien travaillé, tu vois. » Et après, si ça continue, tant mieux.
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Claudia Colombani. Bonjour Claudia.
Bonjour Louisa.
Tu es la créatrice de Self Love Project, dont on va parler longuement. Mais d'abord, comme d'habitude, on se situe et je commence. Donc, je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro de 43 ans. Je suis toujours une femme grosse, je suis toujours une femme célibataire au moment où on enregistre. En termes de niveau social, je suis une transfuge de classe. Donc, mes parents étaient plutôt de classe moyenne, voire classe ouvrière. Et puis moi, avec mon parcours, je suis devenue une CSP+, donc catégorie socio-professionnelle supérieure. Je travaille dans la communication, je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place dans la minorité de Français qui gagnent cette somme avant impôt. Point argent, inflation, argent, c'est bon. Et je n'ai pas précisé, et maintenant je le fais à chaque épisode parce que c'est important pour moi, je ne suis pas en situation de handicap pour le moment. Voilà. Tu peux reprendre le même canevas ou un petit bout, comme tu veux.
Ça marche. Eh bien, du coup, Claudia, femme blanche, hétéro, cisgenre, 35 ans depuis peu. Du coup, moi, je ne suis plus célibataire, je suis fiancée. Voilà, mon statut marital a changé, va changer bientôt. Parisienne depuis toujours. Moi, mes parents sont plutôt issus d'une classe populaire, ouvrière, mais eux-mêmes ont monté les échelons. C'est la génération d'avant, ils ont 70 ans passés, donc ils ont monté. Et du coup, moi, j'ai le privilège d'avoir grandi dans une famille, en plus en étant fille unique, qui m'a apporté beaucoup d'avantages, à la fois intellectuels et financiers aussi, ce qui me permet aujourd'hui d'être plutôt dans une CSP+, effectivement, d'avoir monté mon entreprise avec plus de confort, peut-être, effectivement, que si je n'avais pas grandi dans cet environnement-là.
Très bien, donc consciente de tes privilèges, c'est super. Alors, on s'est rencontrés grâce à Self Love Project que tu as lancé il y a quelques années. Est-ce que tu peux en parler un peu?
Oui, alors Self Love Project, effectivement, ça commence à dater. On se rend pas compte du temps qui passe. En plus, avec le Covid, ça nous a bypass trop d'années là. Alors, je dis on parce qu'à l'époque, j'étais avec Mélanie, qui était mon associée avec qui j'avais créé Self Love Project. On a créé le compte Instagram le 28 décembre 2018. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans. Initialement, le but, c'était de commencer à fédérer une communauté autour des questions liées aux relations. Au tout début, on voulait faire du coaching en rupture. C'est-à-dire qu'on voulait aider les gens qui étaient dans des relations insatisfaisantes à se séparer parce qu'on réalisait qu'il y avait beaucoup de gens autour de nous qui n'avaient pas forcément encore d'enfants, pas des engagements très forts, qui restaient dans des situations qui ne leur convenaient pas. Et donc, c'est un peu parti d'un délire comme ça après quelques pintes de chouf, disons-le. Du coup, on a présenté le projet à des amis. Ils ont dit « Ah, c'est génial !» et tout. Et je ne sais pas trop comment on est passé de ça à Self Love Project, mais en fait, en tirant les fils, on s'est rendu compte que souvent, ce qui faisait que les gens restaient dans des relations insatisfaisantes, c'est qu'ils manquaient d'estime d'eux-mêmes, qu'ils avaient des peurs, qu'ils avaient difficulté à lâcher prise aussi sur le futur, toutes ces choses-là. Donc, on s'est dit, mettons le sujet de l'estime de soi, du rapport à soi, au centre de notre activité. Je mets beaucoup de guillemets à love coach parce que c'est pas comme ça que je me qualifie et j'aime pas qualifier comme ça, mais c'est plus rapide. Et donc, voilà, on a tiré les fils et on a commencé à développer là-dessus et à accompagner principalement des personnes célibataire qui cherchait à rencontrer quelqu'un pour construire une relation saine et durable, si on veut, même si c'est pas une obligation. En tout cas, moi, maintenant, je préfère dire saine et sécurisante parce que je trouve que c'est d'abord ça qui est important. Et donc, ça s'est développé au fur et à mesure des années. Moi, j'ai quitté mon travail en mai 2019 pour me lancer à 100% sur le projet. En février 2020, on a lancé notre podcast, on a lancé notre premier programme en ligne. Ensuite, la communauté s'est développée. Et de fil en aiguille, le premier programme a été transformé et est devenu ce qui est actuellement le coaching rencontre que je fais en collectif ou en individuel et qui est vraiment la méthodologie qui permet d'accompagner sur ces sujets-là.
Normalement, si vous êtes sur Instagram et que vous suivez les sujets autour des relations amoureuses, je vois pas comment vous avez pu échapper au contenu, que ce soit les lives, les stories. Il y a énormément de choses. Moi, je le recommande régulièrement parce que ça peut apporter de l'apaisement, surtout pour des personnes qui sont en difficulté d'accepter la situation de célibat. Je pense que c'est un peu la base peut-être de, j'allais dire l'offre, mais plutôt de la proposition, c'est de faire en sorte que les personnes travaillent sur cette estime qui est importante. Comment tu as travaillé avec Mélanie, puis ensuite seule, sur ces contenus pour aider les gens?
En fait, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de réparer le lien à soi et parler du célibat comme étant un état de fait qui est ni mieux ni moins bien qu'un autre et dont on peut profiter pour apprendre à se connaître. Et effectivement, le but, c'est pas non plus de rentrer dans une injonction au couple, à la relation. C'est pas du tout l'idée. Moi, c'est juste de se dire, aller dans la relation en conscience quand on a vraiment le désir d'y aller pour des raisons qui sont bonnes pour soi. Et du coup, quand on le fait, aller dans un lien qui soit sincère et qui soit authentique. Et du coup, c'est vrai que au fur et à mesure, je me rappelle les premiers contenus, quand je les regarde maintenant, je me dis qu'est-ce qu'ils étaient moches. Mais c'était Instagram de 2019, donc ça paraît très très loin. Ça a beaucoup changé visuellement Instagram depuis. Donc c'était des petites citations où j'essayais d'élaborer, de tirer un petit peu l'idée. Et maintenant, j'essaye vraiment de centrer sur une problématique définie. Ça va être souvent les sujets des personnes indisponibles, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Le sujet de la rupture aussi, le sujet de comment faire durer sa relation dans des bonnes conditions. Donc voilà, j'essaye d'aller dans les choses les plus précises au fur et à mesure et vraiment de transmettre l'idée qu'il s'agit avant tout de compétences relationnelles et qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir grandi dans des environnements qui leur ont donné ces compétences depuis qu'ils sont petits, ils ne savent même pas qu'ils les ont apprises. Et puis il y a des gens qui n'ont pas grandi dans ces environnements-là. Mais ce n'est pas grave, c'est comme une langue, on peut l'apprendre même en étant adulte, c'est juste que ça demande un petit peu plus d'efforts.
Donc ça fait partie des conseils qu'on va retrouver dans le livre, qu'on va évoquer longuement sur comment la proposition est arrivée, etc. Mais je voudrais commencer par une phrase qui a été marquante, comme il y en a plein, mais alors celle-là, je pense qu'elle va faire réagir plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire des rencontres, mais ils n'ont pas forcément le cercle pour. Donc il y a une phrase, je l'ai dite en plus il n'y a pas très longtemps à un de mes abonnés. Alors la phrase est: si vous ne rencontrez jamais de nouvelles personnes, il faudra vous mettre en action, car votre futur partenaire ne sera pas livré sur le pas de votre porte. Ça va mieux en le disant, en fait, parce que, je reste dans mon cercle, je suis à l'aise dans mon cercle, je me sens bien, en sécurité, mais il n'y a jamais de nouvelles personnes, et après, je me plains un petit peu de ne pas faire de rencontres. C'était important pour toi de le repréciser noir sur blanc?
Oui, parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez... Alors, je dis les femmes, parce que 95% des personnes que j'accompagne sont des femmes, mais je commence à avoir des hommes hétérosexuels, cisgenres. Donc, l'avenir est radieux, ça se fait petit à petit. Non, mais je précise parce que c'est hyper important pour moi. Et un jour, peut-être qu'on sera à 50-50 et là, j'aurai réussi ma vie. Mais en attendant, effectivement, c'est une problématique qui revient souvent et que je comprends. Je veux dire, moi, la première, je suis bien dans mon petit confort. Je suis pas la personne la plus networkeuse, la plus sociable du monde avec des inconnus, donc je comprends. Mais c'est vrai que c'est sûr que si on rencontre toujours les mêmes gens et qu'on voit toujours les mêmes gens et qu'il n'y a pas de nouveauté, c'est difficile de créer du nouveau lien, même si des fois, moi je le vois avec le coaching, j'ai aussi des personnes qui repensent à quelqu'un qu'elles ont croisé 6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, et à ce moment-là, la rencontre devient possible parce que l'autre a évolué, soi-même on a évolué, donc c'est pas impossible, c'est juste des questions de statistiques et de probabilités en fait. Donc plus on élargit et plus on augmente les chances de réussir.
Tout à fait, et moi j'ai fait partie de tes coachés, j'en suis ravie, j'ai appris plein de choses et tu m'as fait faire un exercice qui, je pense, n'est pas secret, qui est par exemple de réfléchir aux hommes, puisque moi je suis dans un cadre hétéro, qui étaient déjà dans mon cercle, mais que je n'envisageais pas forcément, parce que je les voyais comme des gens peut-être pas intéressés par moi sur un plan amoureux, sérieux, peut-être plus sur quelque chose de léger. Mais en fait, j'en savais rien. Je projetais des choses sur eux. Et donc, tu m'as proposé de simplement poser la question, de lancer le dialogue. Là aussi, ça paraît évident, mais en fait, non. Donc, je l'ai fait avec l'un de mes partenaires. Et alors, c'était rigolo parce que cet exercice, alors, Claudia m'a dit qu'il faut que je te pose la question. Alors, c'est comme un exercice scolaire. Est-ce que tu pourrais te projeter avec moi dans une relation? Pourquoi pas constructive, où on pourrait faire des projets, pas que le physique. Et il me dit, je serais honorée de pouvoir être ton compagnon et que tu sois ma compagne. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais je sais pas. J'ai demandé à Claudia. J'étais vraiment dans cet exercice-là. Et donc, tu m'as proposé simplement qu'on se voit un peu plus avec cet homme-là et qu'on voit comment ça évolue. Donc, comme quoi, des fois, j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir, cet élan. Je vois vraiment l'enfant avec le vélo et puis les petites roulettes. Et puis, on va enlever les roulettes à un moment donné. Mais là, on a besoin des petites roulettes pour pouvoir se lancer et voir ce que cette relation va donner ou pas. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est un des éléments d'accompagnement que tu peux proposer. C'est parfois, quand on ne fait pas de nouvelles rencontres, ça se trouve, il y en a déjà dans le cercle. Et ça, tu l'as peut-être déjà vu avec d'autres coachés.
Oui, là, je pense à une qui a rencontré quelqu'un, qu'elle avait déjà rencontré en soirée 3-4 mois avant. Et en fait, elle l'a revu. Et avec le travail qu'on a fait, elle avait un autre regard sur lui. Alors lui, il était aussi à un autre stade de sa vie relationnelle et il était plus disponible à ce moment-là. Mais avant, ça, par contre, c'est quelque chose qui revient chez toutes les personnes que j'ai accompagnées. Quand elles rencontrent quelqu'un et que ça fonctionne, elles me disent toutes, je ne me serais jamais intéressée à cette personne avant. Et ça, c'est systématique parce que pour moi, le travail du coaching, c'est justement d'enlever un peu les œillères, de fermer des portes qui finalement n'ont jamais vraiment été ouvertes pour construire et peut-être d'aller voir des portes qui étaient là et qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Donc, c'est ça qui est cool.
On va revenir justement sur le livre où il y a ce type de conseils-là. Alors, comment le projet de livre est arrivé ?
Depuis fin 2021, on y pensait avec Mélanie. On a commencé à travailler vraiment dessus début 2022. On était accompagné par une apporteuse d'affaires qui vient chercher des auteurs pour amener les projets aux maisons d'édition. Et donc, on avait contacté Erol via cette personne qui a trouvé le projet intéressant et a accepté. Alors, le projet a un peu changé entre-temps parce que avant, il y avait Mélanie qui était avec moi sur le projet parce qu'elle était encore dans Self Love. Comme elle est partie, moi, je l'ai fait évoluer et j'ai souhaité plus le projeter autour de cette structure avec comprendre pourquoi ça bloque, mais aussi proposer des pistes de solutions et de méthodologies qui font écho à ce que je travaille en coaching dans Rencontre, mais qui reste quand même des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que les principes de base sont les mêmes, les exercices sont différents, mais voilà, pour permettre à chacun et à chacune, et je dis bien chacun aussi, parce que le livre est écrit en inclusif et j'ai fait exprès de faire en sorte que les hommes puissent se sentir inclus là-dedans, de commencer à se poser les questions, de commencer à prendre du recul et peut-être de faire ce travail soit 100% par eux-mêmes, soit commencer à voir, peut-être voir qui bloque et finalement, pourquoi pas, après tout, après s'engager sur un coaching collectif ou individuel, mais en tout cas que chacun ait la possibilité de commencer à faire le travail de son côté.
Donc, le côté inclusif était important pour toi, mais est-ce que on était plutôt sur des personnes qui sont d'orientation hétéro? Et est-ce que ça peut aller vers les personnes LGBTQIA+, ou pour l'instant, tu ne te sens pas forcément, entre guillemets, la légitimité de le faire?
J'ai déjà eu des coachés qui étaient, que sur les femmes que j'ai accompagnées, mais qui étaient bisexuelles ou qui étaient lesbiennes. Ce n'est pas du tout un sujet. Bien sûr, j'entends que ça peut amener certaines particularités, mais ça va plus être peut-être dans les modes de rencontres, dans des choses comme ça. Mais moi, je suis bien en amont de ça, en fait. Je suis vraiment dans le rapport à soi, dans comprendre nos mécanismes émotionnels, dans comprendre nos schémas de relations. Et en fait, je me rends bien compte que pour en avoir accompagné plusieurs hétéros ou bisexuels ou lesbiennes, alors j'ai pas eu d'homme gay encore, mais les problématiques de fond, franchement, sont les mêmes selon les êtres humains. Encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, et quelle que soit son orientation sexuelle, tout ce qui est lié aux peurs, à la question du contrôle, à la difficulté à poser ses limites, aux traumatismes qu'on peut avoir vécu, même si moi, je ne traite pas les traumatismes parce que je ne suis pas thérapeute, mais en tout cas, c'est forcément des choses qui impactent notre façon de vivre nos relations. Mais en fait, ça n'exclut personne, en fait. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie, surtout sur un sujet du love coaching, du coaching amoureux, où on oppose beaucoup, surtout dans le monde hétéronormé, le fonctionnement des hommes, le fonctionnement des femmes, voici comment il faut agir, etc. Moi, ça me rend ouf. Donc, j'avais vraiment envie de poser et de proposer autre chose, qui est mon postulat. Alors, peut-être que je ne pense pas qu'il soit scientifiquement faux, parce que c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus complet sur ce sujet-là. Donc, je me dis, s'il n'y a pas de consensus dans un sens, il n'y en a pas un dans un autre, mais ce n'est pas grave. Explorons ce qui se passe quand on arrête de mettre les gens dans des cases. Peut-être qu'il y a plus de possibilités qui se dévoilent.
Tout à fait. Et dans les coachés que tu as pu rencontrer, Est-ce que tu as eu des personnes qui avaient cette envie de, d'obligation de résultat qui n'existe pas? On est sur une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de te proposer plein d'outils pour que tu puisses te sentir mieux et avancer, mais sans te dire qu'à la clé, suite au coaching, tu rencontreras la personne qui te convient. Mais il y a peut-être ce désir d'entrer dès le premier entretien avec certaines coachées.
Bien sûr, mais ce qui est normal, je comprends. C'est-à-dire que pour les personnes avec qui je travaille, il y a une part de souffrance à être dans la situation dans laquelle elles sont. Et donc forcément, il y a un désir très fort que ça change. Et c'est aussi le but du coaching, c'est d'avoir cette transformation. Mais comme tu dis, ma vraie réussite, on va dire, c'est pas quand les gens se mettent en couple, même si j'en suis très heureuse si c'est ce qu'elles désirent, évidemment. Ma vraie réussite, c'est quand il y a un vrai changement de posture et que les personnes sont capables de me dire « Oh là là, je regarde pas pareil les personnes que j'ai en face de moi » ou alors qu'elles vivent un début de relation qui est sympathique et très différent de ce qu'elles avaient vécu et qu'elles me disent bah « En fait, là, je me rends compte que si ça s'arrêtait demain, je serais triste, mais en fait, je perds pas le sens de ma valeur, je reste ancrée et ce serait pas grave, ça aurait été une belle expérience. » Quand on en arrive là, je dis « Ça, c'est bien, on a bien travaillé, tu vois. » Et après, si ça continue, tant mieux. Mais donc voilà, du coup, effectivement, il y a ça. Mais effectivement, tu as raison, il y a des personnes qui sont là-dedans. Ce que je comprends, souvent, c'est celles... Alors, je ne sais pas si c'est paradoxal, non, c'est assez logique, je pense, mais où ça va être le plus long, des fois, à enclencher derrière. Parce que les gens qui sont dans cette dynamique-là, que ce soit avec moi ou avec leur psy ou tout ça, ben, en fait, c'est des gens qui attendent un déclic extérieur, qui attendent finalement que le changement vienne de la personne en face. Quand le changement peut venir que de l'intérieur d'elles-mêmes, de ce qu'elles vont mettre en place. Et je dis ça sans culpabilité, hein, parce qu'évidemment, si des fois elles n'arrivent pas à le faire, c'est qu'il y a des choses qui restent bloquées longtemps, c'est qu'on est toutes et tous différents. Et c'est très injuste. On ne part pas tous du même point de départ. On n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles, émotionnelles, relationnelles. Donc, c'est comme ça. Il faut accepter ça. Donc, il y a des gens pour qui ça va se débloquer en 2 semaines, 2 mois. Il y a des gens pour qui ça va prendre un peu plus de temps. Mais aussi, je remarque que souvent, celles qui sont dans cette obligation de résultat, c'est aussi celles qui ne mettent pas forcément en œuvre ce que moi, je leur ai dit de mettre en œuvre sans prétention. Tu vois, je ne dis pas fait ce que je dis et ça va forcément marcher, mais c'est celles qui ont le plus de réticence, paradoxalement, à mettre en place des nouveaux comportements. Et donc, c'est aussi pour ça, des fois, que ça ne fonctionne pas. Mais bon, moi, j'aime bien les cas un peu plus difficiles. C'est toujours plus challengeant. Et du coup, quand ça se débloque, c'est encore plus satisfaisant.
Est-ce que tu as eu des... étonnements, des choses qui t'ont marqué où tu t'es dit, ah, je pensais pas du tout que ce coaching allait donner ça avec cette personne.
Oui, parce que tu vois, j'ai des coachés où c'est un peu cette typologie-là, des gens qui ont beaucoup de rigidité, parce que c'est des gens qui sont très fragiles psychiquement, donc il y a forcément plus de rigidité, c'est leur mécanisme de protection. Et du coup, quand il y a rigidité, bah, c'est plus difficile à aller malaxer. Et des fois, tu te dis, ah, je malaxe, mais ça s'assouplit pas trop. Et puis à un moment, tu sais pas pourquoi. Les gens, ils ont réussi à t'entendre ou il s'est passé quelque chose et les deux mis en perspective, ça vient débloquer. Et en fait, il se passe quelque chose. Alors, c'est pas forcément une mise en relation. Ça peut être la fin d'une relation qui fonctionnait pas. Ça peut être oser enfin poser ses limites, oser enfin dire quelque chose qu'on n'aurait pas osé dire avant. Et ça arrive régulièrement. Donc, je suis contente de ça.
Oui, il y a des témoignages dans le livre pour montrer un petit peu les blocages qu'il y avait pour certaines personnes. Comment tu sélectionnes? Parce qu'il y a eu tellement de personnes que tu as accompagnées. Donc, qu'est-ce qui était le plus prégnant où tu t'es dit là, ça, celui-là, il faut que je l'utilise?
Alors, moi, ce que j'ai fait, parce que faire des témoignages 100% qui sont les témoignages des gens, ça demanderait que les gens soient d'accord et c'est toujours compliqué. Mais en gros, si tu veux, j'ai un peu des typologies et c'est ce qu'il y a dans le livre de personnes que j'ai pu accompagner. J'ai créé des histoires à partir des histoires de vie des personnes là que moi j'avais pu croiser, accompagner ou même pas accompagner, même sur Instagram. Enfin voilà, tu te rends compte en fait à force de parler. Là, depuis 2-3 ans, Self Love Project, c'est plus de 500 femmes que j'ai accompagnées en coaching individuel et collectif. Mais pour ça, il faut te dire que j'ai dû en avoir moins 3 ou 4 fois plus en entretien avant. Donc du coup, je commence à avoir l'oreille sur les difficultés, les discours, les choses qui reviennent. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de donner vie à ça dans les témoignages pour qu'on puisse plus se reconnaître. C'est les points de souffrance qui reviennent régulièrement, les discours, les phrasés qui reviennent souvent.
Et c'est quoi là, peut-être la phrase que tu as le plus entendue depuis le début?
Je pense que le « je ne suis pas faite pour être aimée » ou « je ne mérite pas d'être aimée », celui-là, il revient souvent. Et je ne comprends pas pourquoi je ne suis attirée que par des hommes indisponibles. De toute façon, l'histoire des personnes indisponibles, en l'occurrence des hommes souvent, puisque j'ai des femmes hétérosexuelles en majorité, ça c'est un sujet qui revient chez 70% je pense des femmes que j'accompagne.
Donc il y a peut-être un sujet de leur côté, mais oui. Sans culpabiliser ces femmes, il y a aussi un sujet du côté des garçons qui ont peut-être été éduqués, élevés, mis dans une société où on leur dit que c'est super positif d'accumuler les rencontres et que on n'est pas obligé de se remettre en question, que ça, voilà. Et donc il y a un truc un peu systémique quelque part.
Ah ben bien sûr. Et puis il y a la question, enfin, de la disponibilité. Alors quand ils sont en relation, c'est une forme d'indisponibilité, mais l'indisponibilité émotionnelle, l'incapacité à s'engager, c'est aussi lié au fait que les hommes, on les connecte pas à leurs émotions, et du coup ils font les mecs, ils s'en foutent. Enfin bon, bref, voilà, tu connais le topo. Je vais pas te l'expliquer, mais donc du coup effectivement, ça crée cette dynamique du fuis-moi, je te suis, qui est souvent un conseil donné par les love coach. D'ailleurs, tenez la technique du fuis-moi, je te fuis. Ok, mais du coup, quand est-ce qu'on se rencontre? S'il y en a toujours un qui court après l'autre, à quel moment on se retrouve? Donc c'est pour ça que je trouve ça complètement stupide. Et en plus, ça ne fait que aggraver les schémas déjà présents. Il y a aussi comment la société nous conditionne à nous dire que le bad boy, le mec pas dispo, qu'il va falloir transformer en prince charmant. Et c'est aussi pour ça que j'en parlais dans le livre. C'est quelque chose de plaisant, et c'est ce vers quoi on va tendre. Et cette dimension socioculturelle, elle est hyper importante. Et je trouve que, alors, elle a été très abordée par des gens beaucoup plus compétents que moi. Eva Illouz, que je cite dans le livre, de faire, voilà, j'ai essayé de vulgariser le propos pour que ce soit accessible. Mona Chollet aussi, qui a écrit un livre là-dessus. En ce moment, il y a beaucoup de choses. Donc, mais dans le monde, enfin, tu vois, de la psychologie et du coaching, je trouve qu'on laisse trop de côté cet aspect socio-culturel, et on laisse peut-être trop le côté psychologique et individuel dans le monde de la sociologie. Du coup, moi, j'aime bien, je suis très réconciliatrice dans mes approches. Du coup, j'aime bien essayer de rejoindre toutes les idées qui peuvent permettre d'avancer. Parce que pour moi, les deux aspects sont importants. C'est les deux faces d'une même pièce, puisque l'individu nourrit la société et la société nourrit les individus. Donc, on peut pas faire la part des choses complètement.
Et dans le livre, il y a un aspect peut-être qui va être difficile pour certaines personnes. Et c'est un sujet sur lequel je travaille au niveau psychologique et pour un futur épisode. En l'occurrence, je travaille sur la relation au père. Donc, pour en particulier les femmes hétéros, ça va être un vrai sujet. Donc, il y a cet exercice d'essayer de se souvenir de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant par rapport à leur représentation du premier couple qu'on a pu connaître, qui est potentiellement nos parents. Alors, il y a des exceptions, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas connu l'un des deux parents, par exemple. Donc, c'est quoi les premiers modèles, rôle modèle, entre guillemets, de masculinité? Et ça, est-ce que tu as eu dans tes coachés des personnes qui se sont dit « Moi, je ne peux pas ouvrir cette partie-là, c'est trop douloureux pour moi ».
Non, jamais personne n'a refusé. Après, c'est vrai que la plupart des personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui souvent sont déjà suivies en thérapie. C'est pas une obligation pour faire le coaching, mais bon, en général, quand on en vient là, c'est qu'on a déjà passé du temps à se poser les questions. Après, effectivement, pour celles pour qui c'est le premier travail sur soi, la première approche, c'est toujours un petit peu plus déstabilisant. C'est aussi l'intérêt d'être accompagné, hein, que ce soit avec le groupe ou avec moi en individuel, c'est que ça fait du soutien et, bah, si c'est dur, on arrête, on contourne, on voit. Moi, j'adapte en fonction de ce que je vois, la réaction qu'il peut y avoir en face. Mais voilà, ça reste des questions importantes à se poser. Après, moi, je suis pas là pour forcer la main des gens. Donc, on fait en fonction.
Mais il faut, au moins, on peut en prendre conscience.
C'est ça.
De l'impact que ça a eu, qu'on le veuille ou non. Ça veut pas dire qu'on est déterminé par ça. Mais il va y avoir, sans doute des réflexes un peu incontrôlables de, ah bah oui, bah tiens, j'avais plutôt l'habitude d'avoir typiquement des moqueries, que la moquerie était un signe d'amour, ou que je l'ai assimilé comme ça, et que du coup je vais essayer de le retrouver dans d'autres relations avec des hommes, et que limite si les hommes ils se moquent pas, ils sont plutôt dans la bienveillance, voire me faire plein de compliments, bizarre, méfiance, je reconnais pas ce que c'est. Donc là c'est une expérience personnelle, mais tout ça part aussi d'une part d'enfance.
Bien sûr, bah, de toute façon, il y a cette phrase qui dit « En amour, on va vers ce qui est familier et non pas vers ce qui nous fait du bien. » Tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, justement, pour conscientiser ces schémas-là. Alors, il y a des gens, ils ont de la chance, ils ont grandi dans un environnement familier qui leur fait du bien, et eux, ils sont pépères. Et puis, il y a ceux qui ont grandi dans un environnement familier qui, à minima, peut-être est un peu dysfonctionnel, voire violent. Et du coup, qui fait que on peut se retrouver à répéter ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de la faute des gens qui répètent, parce que eux, ils héritent de ça. Mais malheureusement, effectivement, le seul moyen d'en sortir, c'est de conscientiser ce schéma dans lequel on a grandi pour s'autoriser à aller vivre autre chose, en fait, qui soit plus doux, quoi.
Et tu disais aussi que dans le livre et dans l'accompagnement en général, c'est que parfois on peut avoir des critères. On se met une espèce de liste à la Prévert de critères. Et ben comme ça, c'est bien pratique parce que personne n'y correspond. Et donc, voilà. Et j'ai essayé, hein, mais en fait, ça rentre pas.
Ah bah oui, bah de toute façon, la liste de critères, c'est bon, tu le sais, c'est mon combat. Et c'est la troisième partie de l'accompagnement, du coaching, quand on va décortiquer un petit peu tout ça. Effectivement, pour certaines personnes, ça dépend, hein, de chacune, mais pour certaines personnes, il y a vraiment ce mouvement de... Moi, j'ai ma liste. Si ça rentre pas, c'est pas grave. Mais en fait, personne peut y rentrer. Et comme ça, je suis pépère et je suis sûre de pas être en couple et personne viendra me déranger. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un désir de maximisation, tu vois, avec une espèce de phobo, fear of better option. Donc, de se dire, il y a toujours mieux. On peut toujours, c'est très capitaliste aussi comme approche. Mais effectivement, la liste de critères, en plus, elle est souvent contre-productive pour la raison qu'on vient de citer, mais aussi parce qu'elle nous fait pas regarder au bon endroit. Et qu'assez paradoxalement, arrive le bad boy, le mec un peu comme ça, la liste, elle part à la poubelle, et ou en tout cas, on se laisse illusionner par un ou deux critères soi-disant importants de la liste, et on met tout à côté. Moi, je dis souvent à mes coachées, parce qu'elles me demandent, oui, non, mais moi, on me dit que je suis trop difficile, et du coup, mon entourage me dit que je suis trop difficile, et c'est pour ça que j'ai personne. C'est un grand classique des femmes célibataires depuis 30 ans. Et moi, je leur dis souvent, vous êtes trop difficile, mais vous n'êtes pas assez exigeante. Vous êtes trop difficile parce que vous allez picorer la couleur des lacets, la couleur du t-shirt, et encore, j'exagère à peine, hein, des fois. Et par contre, un mec qui vous parle mal, un mec qui n'est pas disponible, un mec qui vous dit clairement « non, je ne veux pas construire une relation avec toi », ben vous allez accepter, choisir de continuer dans cet espace relationnel, alors qu'en fait, votre standard pour vous, il devrait être plus haut que ça. Et donc, pour moi, le travail de coaching, c'est ça, c'est vous rendre moins difficile, mais vous rendre plus exigeante.
D'accord. Et le fait que maintenant, tu aies un peu plus de garçons, je trouve que c'est un signe peut-être des temps, qu'il y ait des hommes qui se disent ben, « moi aussi, je peux creuser cette partie-là, je peux me faire accompagner », donc ça demande quand même une démarche particulière. Moi, je pense là à comment on peut l'appeler, un auditeur, un nouvel auditeur, et peut-être un invité, mais il se tâte parce qu'il est très timide. Et je me dis, sur le papier, il a tout ce qu'il lui faut. Au-delà du physique, c'est un peu le sosie de... Et lui, il ne le voit pas qu'il est le sosie. Et tout le monde lui dit, mais non, il est le sosie de Captain America, Chris Evans.
Okay, okay.
Au moins au niveau du visage. Mm-hmm. En partie de la musculature. Enfin, il y a ce qu'il faut physiquement pour une norme classique. Donc, mm-hmm. Il pourrait plaire à un certain nombre de personnes. Bon, c'est quelqu'un qui est sensible, cherche une relation amoureuse, aimerait fonder une famille à terme, est dans un cercle où tout le monde est déjà casé, dans les Hauts-de-France en particulier. Et c'est vrai que ça dépend des générations, mais il y a certaines régions où à 30 ans, tout le cercle d'amis est déjà en couple et avec un ou deux enfants. Mm. Et pour l'instant, il ne fait pas les rencontres, sans doute aussi parce qu'il est en train de travailler sur le deuil de sa précédente relation. Et là, on se dit, mais sur le papier, lui, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi il ne rencontre pas ? Typiquement, s'il devait te contacter, quel premier conseil tu pourrais lui donner ?
Ah bah moi, d'abord, je creuserais, parce que pour donner les conseils, il faudrait comprendre pourquoi. Tu sais, c'est ma question préférée. Hein. Pourquoi, en fait, voilà. Est-ce qu'il rencontre pas des nouvelles personnes d'un point de vue physique ? Tu vois, comme on disait, le cercle social est trop restreint. Ou est-ce que même s'il rencontre ces personnes-là, il n'arrive pas à les accueillir ? Même si, effectivement, il y a une question de nouvelles rencontres, 80% du temps, le problème initial est sur la capacité d'accueil de l'autre et donc de regarder souvent dans la mauvaise direction. Donc, moi, je lui demanderais, oui, déjà, comment ça se passe ? Comment se passe la dynamique de ces rencontres ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait pas ? Qu'est-ce que lui, il a identifié comme blocage ? Tu dis qu'il est timide, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a une image de lui qui est un petit peu détériorée, une estime de lui un petit peu fragile, qui fait que, je sais pas, peut-être que face à une femme qui pourrait lui plaire, il va se dire, bah non, surtout pas, elle voudra jamais de moi, donc il va pas y aller. Donc, il va se fermer lui-même des opportunités. Peut-être que du coup aussi, il va accepter des dynamiques de relations avec des femmes qu'il maltraite un petit peu, parce qu'il se dit qu'il mérite que ça. Bon, c'est assez classique, hein, avec les problèmes d'estime de soi. Donc, il y aurait plein de choses à aller creuser. S'il veut venir, moi, je l'attends avec impatience.
Allez, Flo, c'est pour toi. Donc effectivement, ça peut concerner à la fois les hommes et les femmes. L'objectif du livre aussi, c'est peut-être d'aller toucher un public qui ne te connaît pas encore par les réseaux sociaux, par aussi le podcast. Peut-être que tu auras des personnes d'âge totalement différent de ta cible actuelle. On sait qu'au niveau du lectorat, il y a plus de femmes, mais ça peut être aussi des femmes plus âgées. Est-ce que tu as eu dans les personnes qui t'ont contacté jusqu'à présent des femmes, pourquoi pas, de plus de 50 ans, plus de 60 ans ?
Ouais, alors j'ai eu une femme de 60 ans et quelques dans une session de collectif de l'année dernière. Plus de 50 ans aussi, on en a eu quelques-unes aussi plutôt en collectif. En individuel, j'ai été autour de 40-45 dans ces eaux-là. Donc, il y en a, ça
et
arrive.
Comment ça se passe alors quand on est plus âgé ?
Bah, c'est souvent différent parce que, alors ça dépend desquelles, mais il y en avait, tu vois, celles qui étaient quarantaine passée, elles avaient déjà des enfants, mais souvent elles avaient été dans des mariages compliqués pendant 15 ans, 20 ans, des fois un peu toxiques, très insatisfaisants. Il y a déjà tout ce bilan de vie là à faire et puis il faut leur réapprendre, entre guillemets, un peu, c'est pas à dater parce que moi je suis pas coach en séduction, mais quand même leur réapprendre à se positionner dans cette rencontre, parce que quand ça fait 20 ans que tu l'as pas fait, bah ça fait bizarre, surtout quand entre maintenant et il y a 20 ans, il y a quelques petites choses qui ont changé. à la fois dans l'âge que tu peux avoir et puis dans les moyens de rencontre. Donc voilà, il faut lever un peu des peurs, des choses comme ça. Mais encore une fois, hein, les problèmes de fond, ça reste les mêmes. Peut-être l'avantage qu'elles peuvent avoir par rapport aux femmes plus jeunes, celles qui ont déjà des enfants ou celles qui n'en ont pas, et bon, du coup, ce temps-là est passé, c'est du coup, il y a un petit peu moins de pression. Que tu vois, les femmes que j'accompagne qui ont 37, 38, 40 ans, qui désirent très fort avoir des enfants et qui sont célibataires, et où là, ça va créer un gros point de contraction et de difficulté et d'angoisse. Bon, bah, elles sont débarrassées de ça, du coup, ça enlève un truc dans la rencontre, quoi.
Et tu as eu des retours de tes coachés, peut-être quelques années après, pour voir où elles en sont ?
Ouais, bah dans mes premières coachées que j'ai accompagnées il y a un peu plus de 3 ans maintenant, il y en a qui sont toujours en relation. J'en pense à une qui a rencontré son mec, ça faisait 2 semaines qu'on avait fini le coaching individuel. Moi, je te dis, des fois, c'est fulgurant. Donc, elle m'avait redonné des nouvelles il y a 6 mois, 1 an maximum, je crois, et ça se passait très bien, il n'y avait pas de sujet. Des coachés aussi de collectifs qui reviennent des fois 1 an, 1 an et demi après et qui me disent « Ah bah oui, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, c'est trop chouette et tout, ça se passe bien. » C'est toujours difficile de donner une deadline, une durée exacte. Et c'est pour ça que moi, le conseil que je donne à mes coachés à chaque fois et ce que je dis, c'est là maintenant, l'objectif, c'est pas que tu rencontres un mari dans 3 semaines. Si c'est le cas et que c'est cool, j'ai pas de problème avec ça, je suis ravie. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est que tu vives des voyages, mais que tu ne choisisses que des voyages qui sont plaisants pour toi. Et si les voyages ne te satisfont plus, tu sois capable d'y mettre fin. Encore une fois, c'est dans l'idée de développer ces compétences relationnelles-là. Et puis, à force de rencontrer des gens et de savoir dire stop quand il faut, avant que ça nous abîme, en fait, et ben du coup, on multiplie les potentialités et les possibilités, et puis à un moment donné, ça finit par se débloquer.
Alors moi, si je peux faire un retour de coacher, alors il y a plein d'outils que j'ai gardés, qui sont devenus des réflexes, qui sont, je pense, enregistrés dans mon cerveau, où j'arrive à repérer des choses que j'aurais pas vues avant. C'est un peu comme les lunettes du féminisme, une fois que tu les as, tu peux plus les enlever. Bah là, il y a un peu ce truc de, pas de suranalyse, mais là, je suis en train d'être... de poser mon cerveau par terre, là. Je le vois, parce que lui n'a rien de ce que j'attends en termes de respect, vraiment de respect de moi, de ce que je suis, de ce que je peux apporter. Et je pense que j'aurais mis vachement plus longtemps à le voir avant. J'aurais attendu je ne sais pas combien de rendez-vous. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis, j'ai quand même attendu 7 ou 8 red flags. Hein. 2 déjà, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que ça vient plus vite et que je vais plus rapidement me dire, mon temps est précieux. Je peux le consacrer à plein d'autres choses qu'à cette personne qui ne m'apporte pas le respect que j'attends. D'où le titre, c'est le Love Project. Je pense que c'est vraiment le cœur de ton travail. C'est vraiment de faire en sorte de se protéger, d'être ouvert à la rencontre, mais toujours dans le respect de soi.
C'est ça, oui, et puis de se remettre au centre. Alors, il y a un peu 2 catégories. C'est vrai qu'il y a les femmes qui ont du mal à être en relation et qui vont un peu enchaîner. Et puis, il y a celles qui sont très bien célibataires, très capables de l'être. Par contre, quand il y a un homme qui rentre dans leur vie, c'est un peu comme s'il devenait le soleil. Ils vont orbiter autour sans trop pouvoir penser ou faire autre chose. Et du coup, ce qu'on veut éviter, c'est ça, cette espèce d'orbitage autour du soleil. Je veux qu'elles restent leur centre. Après, c'est normal, des fois, de se décentrer un peu, mais qu'elles aient cette capacité, voilà, à dire, comme tu l'as dit très bien, oh là, je suis en train de me voir, tu vois. Donc, c'est vraiment développer des processus de métacognition. Donc, c'est-à-dire se voir penser pour être capable de dire, peut-être que c'est pas la bonne direction. Et puis, c'est pas parce que je pense ça ou que là, je trouve hyper canon ou hyper intelligent que ça veut dire que c'est l'homme de ma vie, tu vois. C'est aussi remettre un peu d'espace, un peu de perspective. Des fois, on peut dire, ouais, il est génial et tout. Et pendant 3 jours, y penser et puis se rendre compte que c'est un tocard, tu vois. Et c'est pas grave. Donc, c'est remettre vraiment de la flexibilité aussi et de l'évolution de la variabilité, en fait, dans notre façon d'approcher les choses, que ce soit moins figé.
Oui, puis peut-être aussi mettre les bons mots sur ce qu'on ressent. Je sais que pour en avoir parlé avec toi, mais aussi avec ma psy, des fois, j'ai l'impression de ressentir un truc et ma psy, elle me dit, ça s'appelle de la libido, en fait. Et c'est OK. Non, mais parce que lui, il a l'air trop bien. Oui, donc vous avez ressenti un truc très fort, mais je ne sais rien de cette personne. Et juste, elle m'a fait une très bonne impression pendant 1 heure ou 2, en l'occurrence, un invité, bon, que je citerai pas. Je me dis, mais il est juste, il est parfait, il a tout ce qu'il faut, il est déconstruit, il est militant et juste, il est casé. Mais en fait, est-ce que j'ai envie de creuser plus? Mais pas du tout. C'est juste que des fois, ce que je vois comme étant peut-être un début de... Non, tu as juste passé un bon moment avec cette personne. Il se trouve que c'est un homme et que dans la construction qu'on a pu avoir, on va mettre de la romance tout de suite alors que c'était juste un très bon moment passé ensemble, d'ordre professionnel et amical. Et c'est tout. On n'est pas obligé de mettre un vernis de... Ouais, mais dans les comédies romantiques, à un moment donné... Non, on n'est pas obligé. Donc remettre les mots, prendre un peu de recul, apprécier ces bons moments-là Et puis, ne pas se dire, oui, mais en fait, toutes les opportunités, il faut toujours avoir l'œil ouvert. Et peut-être ça, c'est une pression supplémentaire qu'on met en particulier aux femmes, de dire, mais peut-être tu regardes pas assez, il se passe plein de choses et tu les vois pas. Pas forcément.
Non, pas forcément, effectivement. Ou alors, des fois, effectivement, on regarde pas au bon endroit. Moi, je leur dis souvent, vous regardez à droite parce que vous pensez que le train, il va arriver par là, il est arrivé à gauche, vous l'avez pas vu passer, hein. Donc, et c'est pas grave parce que il y a aussi, de multiples opportunités. Et il y a aussi ça qui fait beaucoup de mal dans la recherche amoureuse. C'est-à-dire de se dire qu'il y a une personne, il faut trouver sept personnes. Et alors, du coup, on s'y accroche parce qu'on se dit, c'est lui. Du coup, si je le laisse partir, il y aura plus jamais d'opportunité. Non, moi, ça m'a fait ça plein de fois aussi, hein, dans ma vie. Avant, je me suis accrochée, bon, des histoires, bref, sans commentaire. Et bon, heureusement, j'arrive maintenant à sortir de ça. Mais voilà, on se dit, c'est lui, je suis sûre. Ah non, je me rappelle les trucs que je disais à ma psy. Non, mais je pense que dans 10 ans, peut-être qu'on se retrouvera. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais what? Enfin, genre, ok. Donc, c'est ok, ça arrive. Mais ça, c'est les histoires qu'on se raconte. Mmh. Et les histoires qu'on se raconte, souvent, elles nous font plus de mal que de bien. Sauf si on est capable de se dire, ce sont juste des histoires. En fait, il faut juste être capable de dire, ouais, bon, je sais que mon mode de fonctionnement à moi, ce qui est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne, mais parce que moi, j'ai beaucoup de gens un peu anxieux aussi, donc ça favorise ce genre de comportement. Mon comportement à moi, dans telle situation, c'est de me raconter des histoires, de projeter beaucoup. Ok, donc là, je me vois faire, je sais que c'est normal, c'est pas lui, c'est moi. Donc, je me dis, ok, je laisse venir la pensée, et puis je lui accorde pas plus d'importance que ça, et je passe au reste de ma journée, tu vois. Ça remet de la souplesse.
Oui, puis ça s'envole beaucoup plus vite.
Ah bah oui.
Ce qui fait que c'est d'autres personnes qui vont nous dire « Mais ton crush, là, tu sais, t'avais essayé de voir à la fin de la conférence, il y avait moi. Je me souviens pas de quoi tu me parles. » Et en fait, tu dis « Ah mais ok, ça y est, c'est mon mécanisme. » Des fois, je fais ça quand peut-être il y a un moment un peu moins fun dans ma vie pour différentes raisons. Bah tiens, tu te mets un petit peu de paillettes avec un crush qui va durer 2 jours et puis tu passes à autre chose et tu l'as oublié et juste ça t'a mis un petit peu de baume au cœur quelques heures et puis voilà.
Mais bien sûr. En fait, il faut regarder ça sans jugement, juste factuellement, c'est comme ça que je fonctionne pour les raisons que tu viens d'évoquer. Ok, c'est pas grave.
Et après, sur le physique, voilà, je vais m'adresser peut-être aux personnes plus jeunes parce que j'ai l'impression que c'est un truc de jeunes d'avoir ce truc de palmarès de on veut la personne, le mec le plus beau qui a tel ou tel physique, des abdos. En vrai, on s'en fout des abdos. Est-ce que tu as ça aussi des personnes qui te disent moi, il me faut tel ou tel physique, sinon c'est pas possible?
Oui, alors moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, moi, j'ai un type d'homme physiquement, alors abdos ou pas abdos, mais tu vois, qui rentre dans un truc. » Donc ça, c'est quelque chose, quand on travaille sur les fameux critères, qu'on essaye d'exploser un petit peu, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ça est précisément. Et ça veut pas dire qu'on a toutes et tous des préférences immédiates. C'est pas grave. Ce qui devient problématique, c'est quand on va choisir que ce type de personne-là et qu'on laisse toutes les autres à côté, parce qu'un physique, c'est pas le plus important. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, quand je dis aux gens de laisser de côté le fameux feeling, l'étincelle, tu sais que ça, c'est mon combat. Mmh. Et les gens, ils me répondent toujours, oui, mais du coup, tu veux qu'on sorte avec des gens moches. Genre, jamais de la vie, ça n'a, je n'ai pas dit ça. Non, vraiment, genre, aucunement, ça a été mes mots. Et tu vois, les gens, ils projettent toujours ce truc-là. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a plein d'ouvertures à avoir là-dessus. Et sur le physique, ce qui compte, c'est est-ce que cette personne, elle t'intéresse d'abord? Et est-ce qu'au travers de cet intérêt, tu développes une attirance et un désir pour cette personne, même si elle ne correspond pas physiquement à ce qui, de prime abord, t'attire le plus facilement et le plus instinctivement? Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, où après mes coachés me disent « Ah bah, je ne serais jamais allée vers ce type d'homme ». Elle désigne l'émotionnel de cette personne, c'est un mec gentil, qui les traite bien, voilà tout ça. Mais aussi le physique, tu vois. Il est un peu plus petit, un peu plus chauve que prévu, un peu plus maigre ou un peu plus gros, ou machin, etc. Et en fait, on a ouvert des portes, tu vois. Et tout va bien parce qu'elles le désirent, elles sont bien avec eux, et ouais, du coup, c'est cool.
Bah, passion stat, hein, je vous mettrai effectivement le nombre de femmes qui refusent d'aller vers des hommes plus petits qu'elles.
Ça.
Il y en a beaucoup, mais c'est voilà, moi je n'ai que de la bienveillance pour vous, mesdames. C'est parce qu'on vous a élevé comme ça.
Ah, donc,
ça va venir avec le temps ou pas, c'est pas grave. Et puis, vous êtes loin derrière le nombre d'hommes qui refuseraient de fréquenter une personne qui n'est pas dans la norme. Alors, ce qu'ils appellent, eux, la norme, c'est une personne qui doit absolument être mince. Donc, qu'est-ce que c'est être mince pour eux? Donc, la grossophobie, c'est un vrai sujet. Ou une personne, et là, on arrive à des sujets de valeur aussi, une personne qui ne serait pas blanche. Pour ces hommes-là, ça ne rentre pas dans leur norme. Bon, eh ben, écoutez, est-ce qu'on a envie de fréquenter ces personnes-là?
Non.
Ça fait loterie aussi.
Ah bah complètement.
Voilà. Et puis après, il y a aussi les personnes en situation de handicap. Voilà, il y a plein de critères. Moi, avant, je me disais, mais c'est horrible. Il va nous rester quoi? Le champ se rétrécit. Moi, je trouve maintenant que c'est une opportunité géniale. C'est que la vie nous soutient et fait en sorte de dire, non, t'inquiète pas, je vais te faire le sablier pour toi là. Parce que sinon, il y a un éventail. Il y a beaucoup de gens. Je vais te faire le tri. Tous ces gens-là, ils sont pas intéressants pour toi. Et donc, il en reste quand même. Après, il faut tomber dessus. Et après, chacun ses critères. Moi, tu te souviens, je pense que j'avais vraiment, je l'ai toujours, mais j'ai un peu plus de bienveillance, le critère des personnes qui n'ont pas d'addiction, parce que moi, j'ai un problème avec les personnes qui ont des addictions. Je les juge moins qu'avant parce que j'ai travaillé là-dessus. Donc voilà, ça peut être lié à des traumas, ça peut être lié à plein de choses. Mais je ne me vois pas avec quelqu'un, par exemple, qui fumerait beaucoup. Mmh. Ben, on a le droit d'avoir ce type de critère.
Ah, mais complètement. Ben là, pour moi, tu vois, ce n'est pas un critère, c'est une limite. Parce que, en fait, c'est plutôt ça, c'est te connaître toi et savoir ce qui, toi, peut venir te trigger, te déclencher pour plein de raisons. Te poser la question, du coup, déjà, pourquoi j'ai ce truc-là? Et donc, en creusant, on se rend compte que c'est potentiellement un trigger, un déclencheur. Et là, se dire, bah non, en fait, moi, c'est une limite pour moi. Et bon, la cigarette, c'est une chose, et je comprends parfaitement. Et après, si on rentre dans les addictions un peu plus dures de drogue, d'alcool, oui, bah dire, j'ai pas envie de choisir un partenaire ou une partenaire qui a une addiction forte, c'est normal. Enfin, je veux dire, ton partenaire, ta partenaire a une influence directe sur ton bien-être. La qualité de nos relations détermine la qualité de nos existences et relations humaines au sens large et amoureuses très spécifiquement aussi, parce qu'il y a quelque chose de très intégratif dans la relation, dans l'intimité que ça crée. Et ça peut te tirer vers le bas comme ça peut te remonter. Donc, et il y a peut-être des gens qui auront moins de triggers sur les addictions. Du coup, ce sujet-là ne sera pas une limite pour eux et ils pourront être là, accompagnés. Ils ne peuvent pas faire le travail à la place de la personne, évidemment, accompagnés, main dans la main. Et peut-être que cette personne, elle pourra avancer vers autre chose, tu vois. Mais si pour toi, c'est une limite, c'est aussi ton droit.
Oui, du coup, je me suis rendu compte que même au niveau amical, ça s'est fait peut-être avec le temps, avec l'âge. Je sais pas comment ça s'est goupillé, mais je n'ai pas beaucoup de fumeurs dans mes amis proches. Parmi les collègues, des gens qu'on n'a pas choisis, mais les amis, normalement, on les choisit. Et donc, ça se fait naturellement. Et je trouve que c'est un truc super positif qui est venu avec l'âge. Il y a une espèce de sérénité à ne plus avoir à se justifier de tout, constamment. Dire, ah, mais t'es pas ouverte, et c'est pas bien, et machin. J'ai plus le temps d'expliquer, de réexpliquer. Voilà, bah c'est pas grave. Vis ton truc. Je te juge pas. Juste, on ne fréquentera pas les mêmes endroits ou pas en même temps. Et c'est OK. Je souhaite à tous les auditeurs et auditrices d'arriver à ce moment de sérénité où on est ancré, vraiment à l'aise avec ce qu'on est, ce qu'on veut devenir. Et non, ce sujet des addictions, c'est très bien d'ailleurs que ça revienne beaucoup sur la scène actuellement, notamment sur le sujet de l'alcool. Je trouve ça très très bien parce que on n'en parlait pas assez. Donc, là aussi, comment tu dis, c'est une limite.
Oui, c'est une limite. Oui.
Voilà, l'alcool, si vous le sentez pas. Et oui, en date, là, je vais faire un exemple. Je mettrai la référence. Il y avait une jeune femme qui témoignait dans West France. Et je me suis dit, est-ce que c'est un truc local? J'espère que non. Elle se disait qu'elle se sentait obligée de prendre un verre d'alcool à chaque date, à chaque premier date, parce que sinon elle avait peur de passer pour quelqu'un, je cite, dégri. Mmh. Bon, donc toi, dans ton secteur ou ta façon de voir les choses, si tu prends pas un verre d'alcool, tu es une femme aigrie. Je trouvais ça très triste.
Mais il y a une grosse pression sociale sur ce sujet de l'alcool. J'ai écouté un podcast d'Arte Radio sur le sujet, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, et hyper intéressant sur la pression qu'on se met par rapport aux autres. Et moi, c'est déjà un sujet sur lequel je me questionne depuis quelques années, même si ça m'arrive encore de boire un verre de temps en temps, etc. Mais sur ce truc, effectivement, t'es pas fun, t'es machin, et j'ai envie de dire, bon, écoute, moi j'ai 35 ans, mes amis ont entre 30 et 40 ans. Je veux dire, si maintenant il y a encore des gens qui me disent super fun, je les regarde, je dis mec, t'as 30 ans passé, genre stop quoi. Genre on a plus 25 ans, je pense qu'on peut arrêter avec ces discours à la con de t'es pas fun parce que tu bois pas quoi. C'est toi qui es pas fun parce que t'acceptes pas que je puisse pas boire, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais parce que les gens potentiellement tu les renvoies à leur propre consommation, enfin voilà, il y a plein de jeux de miroir qui se créent, mais effectivement, c'est l'avantage de vieillir, c'est qu'on peut plus affirmer ses idées et ses limites.
Et accepter aussi que si la personne en date. Elle se sent pas à l'aise parce que oui, mais moi, si tu prends pas d'alcool, moi j'en prends pas. Mais tu fais ce que tu veux, en fait, c'est toi qui décides de ce que tu mets dans ta bouche, donc
bien sûr. Donc
non, mais ça peut-être lancer le débat. Moi, je trouve ça intéressant. Sentez-vous à l'aise de prendre la consommation que vous voulez et de pas être en miroir par rapport à l'autre.
Ah mais complètement, et j'ai même envie de dire c'est un très bon test. Le but c'est pas de tester l'autre, mais c'est que c'est un très bon test parce que c'est comme toute limite, on pose ça sur la table, pas pour avoir un résultat donné, mais pour voir quelle réponse on va avoir, et donc ça permet de s'ajuster.
Voilà, après c'est une question de caractère aussi. C'est vrai que c'est pas évident au premier rendez-vous, on a envie d'être pas trop cassant et puis être agréable, mais rester soi quand même, ça c'est un truc que j'ai appris après mes je sais plus combien de dates j'ai pu faire, c'est de rester soi et de pas jouer un rôle, parce que sinon ça va vous revenir en boomerang parce que la personne que vous avez montrée, c'est pas vraiment vous. Et surtout, ne pas écouter les injonctions qu'on pourrait vous faire. Donc là, je pense à ce chef de projet marketing qui m'avait dit « Je te fais un débrief de tout ce que tu as pas bien fait dans le rendez-vous. Je trouve que ça serait pertinent pour la suite. C'est pour t'aider. Hein. C'est vraiment pour… » Je dis « Mais je t'écoute. » Vraiment le mansplaining.
Ah, la déformation professionnelle, en plus, c'est vraiment le…
Le langage du corps. Et puis, t'es pas souriante. Du coup, il y a une petite déception parce que sur tes photos, tu es très souriante. Et quand on te voit, tu souris pas beaucoup. Est-ce que tu m'as donné envie de sourire? Voilà. T'es pas assez tactile et tu parles de sujets d'éducation. Non, on parle de sujets légers au premier rendez-vous. Mais alors, où est ce livre de règles du premier rendez-vous? Et donc voilà, lui, il avait son point de vue, mais il avait au moins son assurance.
Ah ben c'est sûr qu'il avait l'air très assuré, voilà, oui.
De toute masculine peut-être, de dire « je vais te dire ce que tu fais pas bien, ça va t'aider ».
Quel enfer.
Mais voilà, on apprend, moi je le prends avec second degré maintenant.
Ah ben,
mais
il faut. Hein.
Voilà, je regrette pas d'avoir été moi-même, parce que la vie m'a dit « tu vois, c'est pas pour lui, il est pas pour toi ».
Ah ben c'est clair, ah ben oui, non, là, on veut pas le voir.
Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, je lui souhaite le meilleur. Restez vous-même, pas se forcer. Là, il y a beaucoup de sujets autour du consentement et du consentement oral. Vous dites oui, vous dites non, mais des fois, le langage du corps doit aussi être écouté. Et parfois, vous aurez quelqu'un en face de vous qui ne regarde pas du tout ces trucs-là, qui ne sait pas les déceler. Donc, je vous mettrai les références de postes qui expliquent bien qu'il y a plein de signes que la personne n'a pas envie et qu'il faut juste être dans l'observation et le respect. Et il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui te dit « j'aimerais beaucoup t'embrasser », voilà, verbaliser et plutôt que de forcer. Et ouais, mais du coup, ce n'est pas romantique, ce n'est pas comme dans les films.
Ah bah oui, bah c'est comme quand moi je dis aux gens de regarder la partie rationnelle, de quitter l'étincelle, etc. Oui, mais du coup, c'est pas romantique, on va s'ennuyer, machin. Peut-être, mais bon, au moins tu te feras pas maltraiter potentiellement et au moins tu es sûr de garantir ton intégrité émotionnelle ou physique dans le cas du consentement. Donc,
Oui, puis c'est à nous d'inventer de nouveaux scripts, de nouveaux scénarios et dans le consentement. Et moi, je trouve ça super sexy. Et les filles aussi, on peut essayer de prendre essayer de tenter notre chance, parce que c'est pas évident de faire le premier pas, mais c'est grandement apprécié. Et au pire, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'en meurt pas, ça c'est sûr. Si on se prend une veste, on n'en meurt jamais. Il n'y a pas de problème de honte partie. Bon, quelques secondes, mais au moins vous êtes fixé plutôt que d'attendre. Je ne sais pas, j'aurais pas plus. Voilà, j'aimerais bien tendre. Ah, mais non, ce n'est pas du tout ce que je voulais moi. Mais je suis quelqu'un de très tactile. En fait, c'est dans ma culture d'être tactile. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai passé un moment, mais je ne veux pas qu'on s'embrasse. OK, pas de problème. Bah, peut-être essaye d'être moins tactile avec les autres femmes. Je dis ça pour les prochaines. Parce que chez nous, quand on se touche, on a l'impression qu'il y a une proximité et que peut-être il y a eu une séduction. Et voilà, je savais pas, ok. Transmettez, voilà, on essaye d'être un peu dans la sororité, de laisser, on dit laisser l'endroit comme vous l'avez trouvé. Bah là, on va l'améliorer un peu. Comme ça, il refera pas les mêmes petites erreurs avec d'autres personnes. Donc, tenter le premier pas si on se sent à l'aise.
Ah bien sûr, mais il faut toujours oser, hein, moi je suis pour.
Merci beaucoup Claudia. Je rappelle ton livre donc, qui s'appelle « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse, se reconnecter à soi pour dire stop aux relations chaotiques et rencontrer enfin la bonne personne ». Donc c'est aux éditions Erol, c'est disponible actuellement. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les contenus de Self Love Project sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier. Il y a le podcast aussi, qui s'appelle comment ?
Du coup maintenant il s'appelle Révolution, aimer en conscience.
Voilà, où il y a plein d'épisodes.
Oui, je suis un peu excitée sur l'année 2023, j'ai fait 3 épisodes semaine, on revient sur un épisode semaine là, parce que sinon mon cerveau explose. Voilà.
Donc beaucoup de contenu à découvrir. Et bien sûr vous pourrez contacter Claudia directement, je vous mets tous les contacts si vous souhaitez aller plus loin, pourquoi pas voir si un accompagnement pourrait vous intéresser.
Bien sûr, même juste pour échanger sur Instagram, c'est toujours un grand plaisir.
Super. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'hésitez pas à mettre des notes et des étoiles sur toutes les plateformes où vous pouvez le faire et à me donner de l'argent si vous pouvez sur Tipeee. Merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait. C'est très apprécié, ça permet de payer le montage et l'hébergement du podcast. Merci, à très bientôt.